Mesdames, messieurs, le maréchal Pétain vous parle.
Le 15 mai 1941, Philippe Pétain s'exprime à la radio.
Français.
Et confirme son choix politique pour la France.
Vous avez appris que l'amiral Darlan s'était récemment entretenu en Allemagne avec le chancelier Hitler.
Quelques jours plus tôt, le 11 mai, l'amiral Darlan, vice-président du Conseil, s'est rendu à Berchtesgaden, le nid d'aigle d'Hitler.
Ce nouvel entretien nous permet d'éclairer la route de l'avenir et de continuer les conversations engagées avec le gouvernement allemand.
Le régime de Vichy livre donc concrètement la France aux Allemands.
Il s'agit pour vous, Français, de me suivre sans arrière-pensée sur les chemins de l'honneur et de l'intérêt national.
L'intérêt national pour Philippe Pétain consiste à collaborer avec les nazis.
Moi, je n'aime pas les cambrioleurs et les pillards. Et il y avait dans mon pays une bande de cambrioleurs et de pillards, c'était l'armée nazie. Et puis j'aime encore moins les gens qui aident les cambrioleurs et les pillards, et c'était le gouvernement de Vichy.
Après la drôle de guerre et la débâcle, nos cinq femmes doivent affronter maintenant une France occupée et découpée en morceaux.
À pire, à bêter.
Lucie Aubrac s'est installée à Lyon avec son époux, en zone sud. Geneviève de Gaulle vit en zone nord, elle est étudiante à Rennes. Et Mila Racine, juive russe immigrée, a trouvé refuge à Toulouse avec sa famille. Quant à Simone Mathieu et René Davelli, elles vivent à l'étranger. La première à Londres, jeune recrue du général de Gaulle.
Honneur et patrie.
Et la seconde est installée au Caire, engagée elle aussi dans la France libre. Alors, face à Vichy, ce régime de l'infamie et du chagrin, comment nos cinq femmes ont-elles réagi? C'est la trame de ce nouvel épisode.
Ce que la Française supporte moins que tout autre, c'est l'ennemi chez elle. C'est de voir chez elle celui qu'elle n'y a pas invité. On ne s'impose pas chez une femme française.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Les Résistantes. Quatrième épisode, la chape de plomb.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Voyons, madame, vous, qu'est-ce que vous faisiez?
Moi, je distribuais des tracts et je fabriquais des fausses cartes d'identité.
J'ai fait des transmissions de consignes pour parachutage, des organisations maquis.
Vous avez posé vous-même les bains de plastique.
Avec des détonateurs que j'avais fabriqués moi-même parce qu'on en manquait.
Quelle était la raison qui vous animait?
C'était pour sauver son pays.
Le récit commence à Londres, durant l'hiver 1941. La capitaine Simone Mathieu passe en revue ses troupes.
Section, garde à vous.
Souvenez-vous, l'ex-championne de tennis a obtenu du général de Gaulle le droit de créer un corps de volontaires françaises.
Les volontaires françaises, ce sont les femmes de France et de l'Empire. Ces femmes dont la raison s'appelle bon sens et l'intelligence bon cœur. Celles-là, certes, il n'est pas besoin d'aiguiser leur patriotisme. Elles ne collaboreront jamais.
C'est une unité militaire qui va regrouper au tout début, à l'automne 40, une centaine de femmes.
L'historien Sébastien Albertelli.
Et qui, sur l'ensemble de la guerre, regroupera environ 600 femmes. Là, on a une unité constituée purement féminine. C'est la nouveauté.
En quoi est-ce une rupture dans l'histoire de l'armée française, ce corps des volontaires ?
C'est une rupture parce que, en fait, jusqu'à 1940, il n'y a jamais eu de femmes militaires. Et ce qui est intéressant de retenir, c'est que l'habit ne fait pas le moine et l'uniforme ne fait pas la militaire, en l'occurrence. Et bien sûr, tout le monde a déjà vu des photos de femmes en uniforme pendant la Première Guerre mondiale. À partir de 1938 également, on en a dans l'armée française. Mais ces femmes, en fait, sont des auxiliaires. Elles ne sont pas des militaires. On leur met un uniforme essentiellement pour leur permettre de se mouvoir dans la zone des armées sans être sans arrêt gênées par des contrôles, mais elles ne sont pas militaires, elles n'ont aucun statut militaire. Voilà. Ce qui est nouveau là, c'est que, alors, non seulement on a une unité constituée, on a des militaires, les femmes vont avoir un statut militaire, en fait, elles vont signer exactement le même engagement que les hommes qui rejoignent la France libre, elles vont donc être payées, elles vont avoir une solde, elles vont être encadrées par des femmes. Les officiers, sous-officiers sont également des femmes et elles sont protégées par un statut en clair en cas, par exemple, de blessure ou de mort, puisqu'un certain nombre d'entre elles vont décéder pendant la guerre. Eh bien, elles ont droit aux indemnités normales pour un soldat.
C'est parce que la femme française est fidèle à la France, qui elle aussi est femme, une compagnie de volontaires françaises, une compagnie, bientôt un bataillon, ici, à Londres, à l'honneur de servir dans les rangs de l'armée.
Face au régime de Vichy et à Pétain qui collabore avec les nazis, Simone Mathieu met sur pied un bataillon de femmes. Mais tout est à créer.
Alors d'abord, il leur faut trouver un lieu et la famille Rothschild, à Londres, leur prête un immeuble au 42 Hill Street, qui est un immeuble très vaste.
Éric Allary est historien.
Et assez vite, Simone Mathieu travaille avec à peu près 70 à 100 femmes. Elle transforme ce lieu en véritable caserne. Il y a une cloche qui sonne à 6 heures. On se croirait dans un monastère avec ce système de cloche à 6 heures, 6h30. Alors 6 heures, c'est le lever, 6h30, c'est le déjeuner. 7 heures, il faut ensuite rejoindre différents services dispatchés dans Londres. Elle ne travaille pas là où elle dort, donc avec des horaires stricts. Donc Simone Mathieu est aussi à Hill Street et elle fait un peu gardienne de la caserne. Elle regarde si les jeunes femmes se couchent à la bonne heure. Elles ont quelques autorisations de sortie, mais elles n'acceptent pas que les officiers hommes viennent draguer, on peut dire les choses crûment, dans la caserne.
À présent, au lit les filles.
C'est la rigueur tout de même. Et elle dirige une main de fer, cette caserne. Elle croise assez peu d'ailleurs ces femmes. Elle est assez rare, donc... Toutes celles qui ont témoigné sur Simone Mathieu pendant la guerre, après la guerre, ont des témoignages parfois assez durs contre Simone Mathieu. Mais d'autres la trouvent plutôt sympathique et qu'elle est dans son rôle lorsqu'elle est rigoureuse.
Dans cette caserne londonienne, une centaine de femmes françaises se sont donc engagées comme militaires. Qui sont-elles ?
Alors, la sociologie de ces femmes est extrêmement compliquée à dessiner. Ce qui est intéressant, peut-être, c'est de comparer avec les hommes. Parce qu'on a de bonnes études sur les hommes. L'historien Jean-François Muratiol a parlé à propos de la France libre des élites sans le peuple, pour montrer que la France libre n'était pas du tout représentative de la composition de la société française en 1939, parce qu'on a une surreprésentation des bacheliers, des diplômés, des gens issus des grandes écoles, etc. Pour les femmes, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que si on regarde l'âge de ces femmes, en fait, c'est assez conforme à ce qu'on trouve chez les hommes. On a une moyenne d'âge qui est entre 24 et 27 ans, plutôt autour de 24 ans pour l'ensemble de la guerre. On a une petite moitié d'entre elles qui ont une vingtaine d'années, entre 20 et 29 ans. Et tout ça est assez conforme aux hommes. En revanche, pour la sociologie elle-même, on a quelque chose de beaucoup plus varié. Ce qui empêche de dresser vraiment un portrait robot ou un portrait type de ces femmes. On va avoir des femmes issues de la très grande bourgeoisie. Les chefs Simone Mathieu, Hélène Terré viennent de la grande bourgeoisie. Par exemple, des membres de la famille Rothschild, la femme et les filles du baron de Rothschild sont membres de l'unité. On a la fille cadette de Marie et Pierre Curie. Enfin, voilà. Et puis, on a énormément de jeunes filles, parfois très jeunes filles, qui étaient jeunes filles au père, qui étaient gouvernantes, qui étaient, on le dit, prostituées, qui étaient... Enfin, voilà. Et d'ailleurs, c'est mélange, en fait, parce que c'est vraiment une unité extrêmement mélangée. Ce que permet le fait qu'elles perçoivent une solde, en fait. Elles perçoivent une solde et donc des femmes désargentées peuvent s'engager. Cette grande variété sociologique va poser des problèmes parce qu'en réalité, vu que c'est hétérogène, elles ont parfois du mal à s'entendre entre elles.
Est-ce qu'on peut essayer de voir quelles sont les motivations de ces plutôt jeunes femmes qui s'engagent dans la France libre ?
Les motivations, elles ressemblent là aussi à celles des hommes. Dans les interrogatoires, dans les témoignages d'époque, dans les journaux intimes, etc., là, c'est vraiment intéressant d'aller regarder, on trouve le même mot récurrent que chez les hommes, celui d'utilité. Elles veulent faire quelque chose pour être utiles. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est peut-être un peu compliqué à mesurer aujourd'hui, c'est la puissance du patriotisme, l'attachement à la France. Dans les journaux intimes de 1940, on a des mots très très forts d'attachement à la patrie, du sentiment d'abandon de 1940, de la fierté d'avoir un général comme le général de Gaulle qui s'exprime, qui reprend le flambeau. Enfin, vraiment ça, ça s'exprime de façon très forte. C'est d'ailleurs quelque chose qui est souvent familial, ce patriotisme. On a une bonne quarantaine de femmes qui s'engagent avec une sœur, deux sœurs, trois sœurs, une mère, etc. Enfin voilà, c'est souvent une histoire de famille, l'engagement. Donc le patriotisme, c'est quelque chose d'essentiel. Ça conduit à s'engager, ça conduit pas forcément à s'engager sous l'uniforme. Alors le choix de l'uniforme lui-même, ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il y a une volonté de se fondre dans un collectif.
Contact avec la vie militaire. Cette vie militaire qui laisse à l'imagination féminine un champ si vaste. L'officier supérieur commandant l'école leur souhaite la bienvenue.
Sous les ordres du capitaine Simone Mathieu,
garde à vous !
Quel est le rôle de ces Françaises expatriées au sein de la France libre ?
Le rôle qui leur est affecté tient en une phrase simple, remplacer les hommes. Les hommes doivent être au combat, sauf exception, vraiment. Les hommes jeunes, en âge de combat, doivent être au combat. La France libre est trop pauvre en hommes, donc elle expédie tout ce qu'elle peut au combat. Et donc les femmes doivent les remplacer dans des postes essentiellement subalternes.
À Londres, nous prenons la place laissée vide par ceux qui peuvent combattre.
La capitaine Hélène Théré.
Secrétaire, nous avons pris l'habitude de la correspondance claire et précise d'un état-major. Conductrice, nous dépannons notre voiture. Interprète, nous apprenons ce vocabulaire militaire qui nous permettra de guider nos alliés sur le sol de France.
Je reconfirme. Ennemi 2, 3.
On pourrait imaginer que cette vie de caserne à Londres pour Simone Mathieu est assez éloignée des souffrances de l'occupation en France.
Vigie.
Or,
bien.
La guerre frappe aussi l'Angleterre.
Il ne faut pas oublier qu'elle a subi les bombardements de Londres comme tout londonien et elle est victime du Blitz, notamment il y a une nuit qui est la nuit du 17 ou 18 avril 1941 où Wall Street est totalement bombardée, détruite. Elle est malade ce jour-là d'ailleurs, cette nuit-là elle est malade et malgré sa maladie elle va aider à sortir des compagnes du corps des volontaires françaises, des décombres.
Amenez des civières et les infirmiers.
Il y aura une tuée, des blessés très très graves et vraisemblablement qu'elle est blessée elle-même, puisque au retour de ce bombardement et toute sa vie, elle sera victime de ce qu'on appelle le décollement de la plèvre. Donc, elle est fragilisée sur le plan physique, sur le plan moral aussi, parce que les bombes allemandes leur tombent dessus, et il faut retrouver un lieu. Elle est encore aussi très en pointe, puisque le 29 mai 1941, elle parle à la BBC.
Les Français parlent aux Français.
Femme de France. Chacune à votre manière, vous êtes toutes membres du corps féminin de la France libre, dont nous, plus privilégiés, pouvons porter l'uniforme. Votre résistance stoïque et vos souffrances muettes nous guident sur le chemin de la victoire.
Elle reçoit des dizaines de lettres de jeunes filles, de jeunes femmes qui lui disent « Vous êtes un exemple pour nous, que pouvons-nous faire ?» Et elle dit à la radio ou dans des lettres « Votre combat sur le terrain » en France, dans la zone occupée, nous oblige et nous sommes aussi très préoccupés par votre occupation.
Pour clore ce premier chapitre, sachez qu'en 1944, 600 femmes françaises auront rejoint le corps des volontaires créé par Simone Mathieu. Une certaine idée de la femme, très éloignée de celle véhiculée par la propagande de Vichy au printemps 1941.
maîtresse du foyer, la mère, par son affection, par son tact, par sa patience, confère à la vie de chaque jour sa quiétude et sa douceur. Mère de notre pays de France, votre tâche est la plus rude, elle est aussi la plus belle.
Après Londres, revenons en France occupée.
En Suisse, Peter.
À Rennes, précisément. C'est là, durant l'hiver 1941, en zone nord donc, que vit Geneviève de Gaulle. Elle a 21 ans, elle est étudiante. Un choix significatif.
Le fait qu'elle soit étudiante en histoire, c'est déjà presque une transgression par rapport aux normes de l'époque, au-delà même du régime de Pétain, hein, faut bien le souligner.
Frédérique Naudufour est historienne.
Rappelons que nous sommes en 1941 et que les femmes, pour quelques années encore, sont, depuis leur naissance jusqu'à leur mort, des mineurs civils, des mineurs politiques, qui n'ont aucune autonomie de prise de décision, ni de choix de leur gouvernement, ni d'ouverture de compte en banque, rien. Et que leur présence à l'université reste très minoritaire. Donc le fait de choisir de faire des études est déjà en soi la preuve d'une autonomie et d'une capacité à transgresser. Qu'elle le fasse sous le régime de Vichy, c'est encore plus remarquable, d'autant qu'elle choisit des études d'histoire qui sont quand même celles qui peuvent ouvrir à l'esprit critique, à la comparaison avec d'autres contextes et donc à la mise à distance de l'actualité, de ce qui est en train de se passer. Donc la résistance pour ces femmes qui ont déjà un pied, disons, dans une forme de refus de la norme ou de liberté par rapport à la norme, la résistance pour elles, elle va être un épanouissement. Une forme de libération. Geneviève, elle disait souvent en parlant de la résistance, nous étions au moins à égalité avec les hommes.
Les faits sont si nombreux qu'il n'est pas question de les connaître tous. Les plus simples seront ceux sur lesquels on pourra le mieux raisonner. Voilà, fin du cours, merci à tous.
S'émanciper par les études, comme le fit Geneviève de Gaulle, c'était déjà un acte d'insoumission vis-à-vis de l'ordre patriarcal. Et entrer en résistance pour une femme, c'était donc prendre le risque d'une double transgression. Résister, c'est transgresser. Et d'abord, pour entrer en résistance en 1941, il fallait transgresser l'ordre de Vichy.
Travail, famille, patrie.
Et bien sûr, ça concernait les hommes et les femmes. Mais pour les femmes, résister, ce fut également transgresser l'ordre des genres.
Et l'ordre des genres, il est encore extrêmement présent, enfin le système patriarcal est encore extrêmement présent dans la société des années 40.
L'historienne Catherine Lacour-Astol.
Le chef de famille est toujours le mari. Donc une femme qui transgresse, qui va résister, elle ne demande pas forcément l'autorisation de le faire, elle est dans cette transgression-là, d'un ordre qui voilà, met les femmes en situation, logiquement, de ne pas être un individu, de ne pas être autonome. Donc ça, c'est une double transgression, effectivement.
J'ai besoin de déposer du matériel dans un endroit sûr. T'en aurais pas un ?
Quel matériel ?
De l'imprimerie.
Quand c'est que tu l'amènes ?
C'est pas moi qui vais venir, c'est Pascal.
Maman, voilà papa !
Il faut qu'il vienne quand Henri n'est pas là. Tu sais, j'ai beau être sa femme, il voudra pas de ça chez lui.
De toute façon, il vaut mieux pas qu'il sache.
Pourquoi et comment, une fois encore, la même question, pourquoi et comment on s'engage à 20 ans ? Dans la résistance.
Geneviève de Gaulle, 1995.
Il y a quelque chose que moi j'appellerais l'inacceptable, l'intolérable, devant lequel on ne peut pas prendre son parti. Ce qui était inacceptable, c'était l'humiliation, c'était la lâcheté, c'est qu'on ne se battait pas et qu'on se bat jusqu'au bout contre un ennemi pareil.
En septembre 1941, la nièce du général de Gaulle entre en résistance contre la chape de plomb imposée par Vichy. Et elle est désormais étudiante à la Sorbonne, à Paris.
Le travail de résistance de Geneviève va se dérouler de deux façons. D'abord, à l'échelle familiale, puisqu'elle se retrouve avec sa tante Madeleine à Paris.
Frédérique Naudufour.
Madeleine, la femme de Pierre de Gaulle, et Madeleine qui est elle-même une femme assez libre, que sa famille surnomme le poulain échappé, voilà, pour dire un petit peu son énergie et sa capacité de sauter les obstacles comme ça. Et c'est avec elle qu'elle va faire l'apprentissage de la résistance. Alors, il faut savoir que Madeleine de Gaulle appartient, sans le savoir, parce que les groupes sont très cloisonnés, elle appartient au groupe de résistance du Musée de l'Homme, qui a été un des premiers à voir le jour en France, et que Geneviève va l'aider dans ce cadre-là, mais sans savoir elle-même qu'elle en fait partie. Malgré tout, elles vont subir deux perquisitions de la Gestapo au domicile de Madeleine, qui va toujours échapper aux arrestations. Elle a eu beaucoup de chance, puisque ce réseau dit du Musée de l'Homme est décimé entre mars et avril 1941. Alors, ce qu'elles font à l'échelle familiale, c'est faire connaître le général de Gaulle, qui à l'époque est quand même une personnalité encore méconnue, dont certains pensent qu'il est même une invention des Britanniques. En plus, il s'appelle De Gaulle, donc ça semble vraiment un gag de s'appeler De Gaulle et de prendre la défense de la France. Donc il faut faire voir cet homme en chair et en os. Et en tant que membre de sa famille, elle dispose de sa photographie en colonel. Et elles vont diffuser, reproduire et diffuser cette photographie du colonel de Gaulle à un certain nombre de personnes en cachant la photo dans des pages de livres.
Geneviève de Gaulle dialogue avec Germaine Tillion, 2001. On pense aux mots de Georges Bernanos qui s'appliquent particulièrement bien aux femmes. L'honneur est un instinct, comme l'amour. Et cet instinct a été celui des communistes, comme des monarchistes, des juives, des chrétiennes et des libres penseuses. Il a transcendé tous les clivages.
Durant les premiers mois de l'occupation, qui sont les femmes qui, comme Geneviève de Gaulle, choisissent la résistance ?
Ce qui caractérise la sociologie, c'est précisément le fait qu'on trouve absolument toutes les catégories sociales, tous les âges.
Catherine Lacour-Astol.
Pour les femmes, on a un spectre en termes d'âge qui est absolument énorme parmi les femmes qui s'engagent. Et ça, ça vaut pour toute la période. On a à la fois des femmes qui sont atypiques par rapport à la société de l'époque, au sens où ce sont des intellectuelles qui travaillent de longue date, qui sont engagées dans la société de longue date, comme Germaine Tillion. Mais on a aussi des ménagères ou des femmes qui sont ouvrières. Donc voilà, on a un panel extrêmement large, peut-être une surreprésentation dans la proto-résistance, dans cette résistance pionnière, des femmes qui ont effectivement un parcours, un bagage intellectuel, militant éventuellement, une autonomie liée à leur activité professionnelle, peut-être sont-elles surreprésentées. Mais moi, je me garderais bien d'essayer de chiffrer quoi que ce soit, parce que c'est une question qui est beaucoup trop complexe.
Donc, au départ, la sociologie des Françaises qui refusent la collaboration du régime de Vichy avec les nazis est très hétéroclite, à l'opposé du cliché de la jeune femme célibataire résistante.
Vous pouvez passer, mademoiselle.
Merci, monsieur. Au revoir.
Alors, l'image de la jeune femme, forcément agent de liaison et forcément à bicyclette, a été très très longtemps dominante, à la fois parce qu'elle était dominante dans les représentations collectives, mais aussi parce que les historiens sont parfois aussi prisonniers de leurs représentations et qu'on avait du mal à imaginer que le mariage ne puisse pas être un obstacle à l'engagement résistant. Quand on regarde la composition de la population résistante que l'on a pu identifier, les femmes mariées sont très, très, très nombreuses. Les femmes mariées avec enfants aussi. Et ça n'a absolument pas été un frein à l'engagement. J'irais même jusqu'à dire, au contraire, parce que en résistance, il y a une question de disponibilité à l'action. Et évidemment, une jeune fille est a priori plus disponible pour l'action que ne l'est une femme mariée qui doit se soucier éminemment des difficultés du foyer et du sort de ses enfants, etc., etc. Mais une femme mariée avec des enfants, elle est encore moins supposément délinquante aux yeux de l'occupant. Donc, quand les organisations, les premières organisations se mettent en place, elles s'adressent aussi à ces femmes-là qui vont avoir une fonctionnalité pour la résistance, qui sera extrêmement importante. C'est elles qui vont pouvoir héberger, mettre à l'abri parce qu'elles sont... Alors, les jeunes filles aussi, hein, sont, il y a ce présupposé d'innocence qui vaut pour toutes les femmes. Mais plus encore une mère de famille.
Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et toi?
Les Allemands ont commencé par chez moi.
Mais leur plan, c'est quand même pas ici.
Si.
Maman. Moi qui venais te rassurer.
Par ailleurs, on s'aperçoit que dans les premiers mois de la proto-résistance aux nazis et à Vichy, les femmes sont à l'initiative.
Dans les premiers noyaux, en tout cas, d'organisation, on a effectivement d'abord une proportion de femmes qui est bien supérieure à ce que sera la part reconnue dans les années 44, 45, 46. Souvent, on a une proportion supérieure à 30%, voire même supérieure à 50% dans ces premiers noyaux. C'est particulièrement vrai, par exemple, du réseau dit du Musée de l'Homme, où d'emblée, les femmes sont largement plus d'un tiers et sont à l'initiative. Yvonne Audon, c'est d'abord elle qui convainc Boris Vildé de passer à l'action. Alors, il l'aurait sans doute fait autrement, hein, mais elles sont à l'initiative.
Que tu le veuilles ou non, la guerre est là. Partout autour de nous. Et on ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire.
Et de la même façon, dans des organisations, alors là pour le coup, comme le Mouvement Combat.
Le Mouvement Combat est un mouvement de résistance créé dès 1940 par Henri Freinet et Bertie Albrecht, sa compagne.
Henri Freinet a largement mis en avant le fait que il était redevable à Bertie Albrecht, dont on admet désormais qu'elle est son alter ego dans le Mouvement Combat, dont on a longtemps dit qu'elle était sa seconde. Donc oui, on a des femmes qui jouent un rôle absolument essentiel.
J'aurais dû, en 1940, suivre Pétain aveuglément, comme la quasi-totalité de ma famille l'a suivi. L'a suivi par devoir, par sens patriotique.
Témoignage d'Henri Freinet, 1976.
Mais j'ai eu une chance. Auprès de Bertie Albrecht, avant la guerre, j'ai rencontré de nombreux réfugiés allemands fuyant le nazisme. Des juifs et des pas-juifs. Et j'ai eu connaissance de ce qui se passait là-bas. C'était en définitive, pour la France, l'esclavage, inévitable, si la défaite existait, un esclavage qu'on ne pouvait en aucune circonstance accepter.
Cependant, si les femmes jouent un rôle essentiel dans l'amorce de la résistance, on constate qu'elles disparaissent très vite des organigrammes au sein des mouvements.
À partir du moment où l'organisation se crée, on rentre dans une structure organisée. Et une structure organisée, c'est traditionnellement une structure qui est tenue par les hommes. Tant qu'on en est à quelque chose d'informel, le chef en résistance, celui qui est à l'impulsion, peut être un homme ou une femme. À partir du moment où on rentre dans un schéma structuré, qui en plus a un objectif beaucoup plus défini d'action politique et militaire, les femmes sont effectivement évincées des pyramides et des organigrammes qui existent. Alors, il faut se méfier parce que les organigrammes, on les connaît aussi en aval. C'est-à-dire que peut-être que, par exemple, Bertie Albrecht garde un rôle aussi conséquent que celui d'Henri Freinet, au moins jusque son arrestation.
Allez, on y va.
Alors. Cette disparition des organigrammes a minimisé après-guerre le rôle des femmes dans l'émergence de la résistance, au point qu'elles sont presque devenues invisibles. Toujours est-il que durant l'été 1941, le vieux maréchal Pétain revient à la radio.
Français, j'ai des choses graves à vous dire.
Et il est en colère.
De plusieurs régions de France, je sens se lever depuis quelques semaines un vent mauvais.
Le vent mauvais, c'est l'esprit de résistance qui commence à souffler contre le régime de Vichy. Et parmi les premiers agitateurs en zone sud, Lucie Aubrac et son mari Raymond. D'abord, à quoi ressemble leur vie à Lyon durant cette année 1941?
La vie des épouses Samuel à Lyon en 1941, c'est une vie double.
Laurent Douzou est historien.
Le côté face, c'est que ils mènent une existence normale de deux personnes de la bourgeoisie moyenne supérieure. Ils donnent naissance à un enfant, Jean-Pierre, alias Boubou, en mai 1941.
J'étais professeure dans un lycée de Lyon.
Lucie Aubrac, 1992.
Nous avions un appartement. Ensuite, quand notre petit garçon est né, nous avons eu une maison dans Lyon. Et nous avions une bonne. Raymond avait son métier, moi j'avais le mien.
Ça, c'est le côté face. Et puis côté pile, ce sont des gens qui, au sein du mouvement Libération qui est en train de sourdre, développent une intense activité de propagande, discutent beaucoup avec les autres membres de la meilleure façon de s'y prendre. Et donc, petit à petit, ce sont des gens qui font l'apprentissage de la clandestinité. Donc, il y a une vie au grand jour et puis il y a une vie cachée. Et ils apprennent à faire les deux. Et par exemple, Lucie, au lycée de jeunes filles, est un professeur agrégé parfaitement normal, qui ne se distingue en rien. Et elle ne laisse rien supposer ou deviner de ses activités clandestines au lycée. Et il en va de même pour Raymond dans son travail d'ingénieur.
Comment se manifeste, en 1941, l'insoumission au régime de Vichy chez Lucie Aubrac?
Mon premier engagement de résistante, mais ça ne s'appelait pas résistance, ça s'appelait conscience et responsabilité. Il fallait dire aux gens ce qui se passait, il fallait informer.
D'abord, informer, c'est-à-dire essayer d'éclairer les Français en luttant contre la propagande du régime de Vichy. Avec la création d'un mouvement et d'un journal, Libération Sud.
L'identité de ce mouvement, c'est une identité républicaine, anti-vichiste et très très liée aux revendications, comme on dit à l'époque, ouvrières et paysannes.
Lucie Aubrac dans « Cette exigeante liberté », 1997. Début juillet 1941, nous avons réalisé un premier tirage de journal. Une dizaine de milliers d'exemplaires. Je venais tout juste d'accoucher et j'emmenais le bébé avec moi dans mes expéditions. Il s'agissait d'acheminer le journal et d'en faire assurer la distribution.
Dans ce mouvement Libération Sud, né à Lyon sous la houlette d'Emmanuel Dastier de la Vigerie et de Jean Cavaillès, quel a été le rôle au départ de Lucie Aubrac?
Le rôle de Lucie Aubrac au sein du mouvement Libération Sud, il est à la fois central et très difficile à définir. Parce que quand le mouvement envoie des organigrammes de sa composition à Londres, au général de Gaulle, à ses services secrets, on voit pas Lucie Aubrac figurer dans l'organigramme. Donc on pourrait se dire qu'elle a un rôle second. Or en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les décisions se prennent par imprégnation, par discussion entre membres du centre dirigeant. Et Lucie Aubrac, elle est membre du centre dirigeant pour une raison très simple. Son mari et elle sont parmi les rares à constituer un couple qui a pignon sur rue. Et donc beaucoup des réunions où on discute ont lieu chez les époux Aubrac à Lyon. Et donc elle est vraiment partie prenante de la discussion qui a lieu. Donc elle est, comme beaucoup de femmes à l'époque, pas nécessairement visible dans l'organigramme, mais son influence est en réalité très forte. D'autant que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui prend position très fermement, que son militantisme passé conduit à affirmer des positions. Et donc, on peut dire que le rôle qu'elle joue, il est aussi important que difficile à voir.
En même temps, nous avions cette chance extraordinaire d'être un couple. Un couple avec un enfant, c'était pas si fréquent.
Lucie Aubrac, 1992.
La plupart de nos camarades résistants, Dastier pour commencer, Freinet aussi, Jean-Pierre Lévy, des tas d'autres, même à d'autres niveaux, ces gens-là n'avaient pas de vie familiale. Et notre maison était une sorte de maison d'accueil. Maintenant, tout le monde vous dira « Oh, ce qu'ils étaient imprudents !» Mais c'est peut-être cette imprudence-là qui donnait suffisamment de chaleur à notre atmosphère de résistance, à notre atmosphère de combat, et qui nous a permis d'exister.
Au sein de ce foyer, Lucie Aubrac, résistante, conserve néanmoins quelques tâches assignées aux femmes.
Lucie Aubrac, dans « Ils partiront dans l'ivresse », 1997. Pour une femme plus que pour un homme, à côté de la vie souterraine de la résistance et des actions plus ou moins dangereuses, Il y a le quotidien qu'il faut assumer. Une maison à tenir, un mari, un gosse à nourrir, du linge à laver. Raymond me regarde mettre à tremper dans une bassine d'eau tiédie au soleil le linge sale de cette fin de semaine.
Quittons maintenant la France du régime de Vichy et prenons la direction de l'Égypte, où vit, je vous le rappelle, René Davély, notre quatrième personnage et chanteuse en devenir. Au Proche-Orient, en 1941, la guerre fait rage. Les troupes allemandes du maréchal Rommel, alliées aux troupes de Mussolini, mènent d'âpres combats contre l'armée anglaise en Afrique du Nord pour contrôler la Méditerranée afin d'accéder ensuite aux champs pétrolifères du Moyen-Orient.
Devant les attaques britanniques, les troupes allemandes contre-attaquent.
Et sachez que dans son entretien avec Hitler, en mai 1941, l'amiral Darlan, au nom de Philippe Pétain, a autorisé les avions allemands à utiliser les aérodromes français situés en Syrie.
Contact.
Et à la radio, la propagande de Vichy fait son travail.
Ici, les chars ennemis tentent de pénétrer dans les lignes allemandes. Mais partout, les contre-attaques germano-italiennes se développent.
Ayez en tête que l'Égypte n'est pas à l'abri de cette guerre du désert. Bien au contraire.
Oui, ne pas oublier ça. On pourrait imaginer que l'Égypte est un endroit à l'écart, en apesanteur, presque entre parenthèses dans la géopolitique de la guerre. C'est absolument pas le cas.
L'historien Olivier Loub.
Il y a une guerre du désert qui est très connue, qui dure au moins jusqu'à 42 et El Alamein et la défaite de l'Afrika Korps du maréchal Rommel, mais qui a démarré avec les Italiens dès novembre-décembre 1940. Donc en fait, une vraie guerre avec des dizaines, des milliers de morts, qui par ailleurs est aussi le premier théâtre d'opération où les forces françaises libres vont être présentes avec Bir Hakeim. Ces noms qui résonnent pour nous encore dans la geste de la France libre, c'est le premier théâtre réellement de Leclerc et donc de ses troupes gaullistes de France libre. Or, quel est l'arrière-front ? C'est l'Égypte. Et plus exactement, c'est le Caire. Donc tous ces combats qui se déroulent là et qui sont violents et qui durent plus de 2 ans, enfin 2 ans à peu près, ils ont comme arrière-front le Caire, Alexandrie, et c'est là où il y a des hôpitaux. Et en plus, ça ne concerne pas que les Français, bien entendu, puisque c'est d'abord une guerre britannique, mais aussi avec des contingents qui vont être australiens, etc. Donc il y a des dizaines d'hôpitaux militaires, et René Davély va d'ailleurs être une Française libre, certes, mais c'est aussi quelqu'un qui est une alliée libre. C'est pour le dire comme ça.
Au Caire, René Davély est une Française libre, au service des Alliés. Et sa carrière de chanteuse s'en trouve accélérée.
C'est un plaisir de vous voir.
Elle est une chanteuse. Elle va donc à la fois prolonger un type d'engagement qui date de la Première Guerre mondiale, qui est le soutien culturel aux blessés. Et d'ailleurs, elle est qualifiée dans les papiers de la France libre d'assistante sociale. Mais c'est une assistante sociale qui, dans les papiers britanniques, elle est concert artist. Donc, elle est les deux. C'est quelqu'un qui, à la fois, récolte des fonds grâce à une œuvre qui s'appelle Le Cake du Blessé.
Le Cake du Blessé.
Le Cake du Blessé. Alors, c'est anglo-français. Le Cake, c'est le nom, évidemment, anglais. C'est pour ça que ça s'appelle Le Cake, parce qu'on est en Égypte en situation anglaise. C'est l'Empire britannique. Et du Blessé, parce qu'on est dans cette lignée française du soutien aux soldats, à la fois par le cœur du chant, mais aussi par le fait d'envoyer des colis. Donc, elle occupe une fonction sociale de soutien aux blessés. Elle fait la tournée des hôpitaux. On a la liste, c'est invraisemblable. Elle est marraine de centaines de soldats, par ailleurs, etc. Donc, c'est quelqu'un qui utilise son accordéon. C'est un personnage dont on n'a pas encore parlé, l'accordéon de René Davély, et pourtant il est central jusqu'à la fin de sa vie. C'est une femme qui a cet instrument si populaire de l'accordéon dans un monde qui va devenir celui d'Yvette Horner. Enfin, donc la femme de la chanson populaire qui utilise l'accordéon, c'est quand même typiquement René Davély aussi.
Enregistrement de René Davély sur un disque 78 tours.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean.
René Davelli, dans son rapport au ministère de l'Information, le 13 novembre 1944. Il ne fallait pas hésiter. Dès la première heure, je me mis au service de notre cause sacrée. Dans les hôpitaux, les blessés avaient certainement besoin du réconfort d'une voix féminine. Ce fut le point de départ du CAIC du blessé, fondé avec l'appui du plus grand quotidien français d'Égypte, la Bourse égyptienne. Car il fallait montrer aux blessés qu'on ne les oubliait pas, qu'on pensait à eux.
C'est la Madelon française. On a des courriers qui sont adressés par les blessés, mais pas que par des blessés, par des gens qui veulent s'engager auprès d'elle. On a une lettre très touchante d'ailleurs d'une jeune Libanaise qui envoie ses économies et qui dit « je voudrais m'engager auprès de vous, René », etc. Il faut dire qu'il y a certes tout ce monde des soldats, bien sûr, mais il y a aussi 25 000 Français en Égypte. Et toute une communauté francophone et francophile. Et autour de la chanson, ce sera pas rien, puisqu'on le sait que Yolanda, future Dalida, Claude François, mais aussi Georges Moustaki, sont des gens nés en Égypte de cette diaspora qui est française ou francophone, grecque et italienne, on le voit bien avec Dalida comme avec Georges Moustaki, mais francophone. Et René Davelli, elle est très connue dans ce cercle-là pour son action engagée dans la guerre.
Lettre d'un soldat à René Davelli. Bien chère marraine, voici bientôt 15 jours que Lucien et moi sommes rentrés de notre visite que nous t'avons rendue et nous n'avons pas encore écrit un petit mot à notre marraine. Mais crois-moi, en ce moment, nous sommes assez occupés et nous nous remettons de jour en jour. Enfin, tu sais que nous ne t'oublions pas. Et comment pourrait-on oublier une si gentille marraine comme toi ?
Mademoiselle, puis-je avoir un peu d'eau ?
Alors, dans son rôle de soutien aux soldats blessés, et dans son rôle de marraine qui prend soin des hommes, est-ce qu'on peut dire que René Davelli exerce une activité spécifiquement féminine ?
Oui, elle a un rôle typiquement féminin, mais par ailleurs, elle est aussi une vedette aux armées. Et ça, ça n'est pas que féminin. On ne vient pas chercher que des femmes pour venir faire la vedette aux armées. Parce que vous avez aussi des acteurs et des chanteurs français qui assument ce rôle-là. Donc ça n'est pas que féminin. En ce sens-là, il est culturel. Et c'est ce soutien aussi de l'âme, hein, enfin, au sens de fait de se rasséréner autour de choses qu'on partage et de rire comme avant. Et d'ailleurs, les soldats le disent. Ils disent ce qui nous plaît en particulier, c'est qu'on s'est senti un petit peu en France. Pendant cette soirée, avec des chansons qu'on aimait, qu'on a pu reprendre encore avec vous. Et d'ailleurs, il y a des photos, et ce sont des photos formidables, où elle est avec ce qu'elle appelle ses gars, où elle partage des verres, et où elle dit, fou, il est 3h du matin, je suis cuite, hein. C'est fou, comme ça fait du bien. Non, oui, alors, c'est maternel, mais pas que, et c'est aussi un rôle puissamment, allez, de réarmement affectif, hein, dans tous les sens du terme.
Réarmement affectif au Caire, pour René Davelli. Mais problème de relations sexuelles à Londres pour Simone Mathieu. Revenons donc en Angleterre. À la fin de l'année 1941, dans sa caserne, la capitaine Simone Mathieu doit affronter un problème récurrent avec ses recrues féminines.
Simone Mathieu à l'engagée volontaire Eliane Brault, 1941. C'est toujours par la question de discipline que commencent les embêtements. Permission de minuit pour un retour tardif à la caserne.
La voie est libre.
Quand un colonel sollicite cette faveur pour une volontaire, l'officier féminin se retrouve devant un dilemme. Si elle accepte, on la traite de maquerelle. Si elle refuse, de vieux chameau.
À Londres, sous les bombardements du Blitz, les conditions sont réunies pour que des liens se nouent.
Si je peux me permettre, je pense que vous avez un ticket avec l'officier du bar.
Pardon ?
Le lieutenant là-bas, il n'arrête pas de vous regarder. Si je serais vous, j'hésiterais pas. Qui sait ? Vous serez peut-être mort demain.
Vous savez, ces femmes sont seules. Beaucoup de ces hommes mariés ont laissé leur épouse et leurs enfants en France. C'est donc un monde restreint, un monde fragilisé, qui provoque le désordre des sens Et Simone Mathieu semble ne pas l'accepter, puisque certaines de ses sous-officiers féminins vont avoir des aventures avec des officiers généraux qui vont jouer aussi de leur grade, de leur solde, vraisemblablement, pour aller dans la caserne de la France libre.
Et des relations se nouent, évidemment.
Des relations se nouent, et Simone Mathieu surveille. Beaucoup de femmes lui en voudront, d'ailleurs, parce qu'elle va tout faire pour empêcher ces relations. Mais elle s'attaque surtout au nœud du problème, qui sont ses officiers. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur, puisqu'elle apprend que sa secrétaire à elle a une aventure vraisemblable, plus que vraisemblable, avec le général Petit, qui est le chef d'état-major du général de Gaulle. C'est pas n'importe qui. Et elle se permet de lui dire non. Elle se met carrément en travers. Et on peut imaginer avec un vocabulaire cru et tranché.
Propos rapportés de Simone Mathieu, 1941.
Allô ? Oui, c'est moi.
Le général Petit me téléphona un soir pour me dire « Je viens de travailler tard. Ma secrétaire reste dîner avec moi. » Je protestais vigoureusement au nom de la morale et du règlement.
Donc, le général Petit a envie de se venger. Il trouve la vengeance suprême, qui est de dire au général de Gaulle « Simone Mathieu et les femmes vous attendent demain à la caserne pour une inspection. » Or, Simone Mathieu n'est pas informée. Le général de Gaulle vient voir donc les femmes, vient voir si tout est en ordre, si le bouton de la veste est bien briqué. Donc, il vient voir si ces femmes sont dignes de sa confiance depuis 1940.
De Gaulle fit irruption à midi pour déjeuner avec nous. Il n'y avait personne. Il était mécontent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je voulais voir vos volontaires. Pourquoi croyez-vous que je sois venu ?
On sait que le général de Gaulle lui enverra probablement un message après en lui disant toute l'affection qu'il avait pour ce qu'elle avait fait, mais n'empêche que...
Le lendemain, je suis convoqué par le général Petit. J'accours pour m'entendre dire « On a décidé de vous remplacer. »
Vous pouvez disposer.
Elle est évincée donc... au mois de novembre 1941, elle est remplacée par Hélène Terré, qui, avant d'accepter, va prendre beaucoup de conseils auprès de Simone Mathieu, qui lui donne un conseil principal, ne venez pas. Ne prenez pas la tête du corps des volontaires, ce n'est que souci, et de toute façon, personne ne vous obéira. Même moi, Simone Mathieu, avec toute la rigueur que j'avais, je n'ai pas été obéi, et vous aurez à affronter ces généraux qui se croient tout permis. Elle ne parle pas de De Gaulle, évidemment, elle parle de Petit, et certainement d'autres généraux, deux ou trois autres généraux qui avaient essayé d'avoir des aventures avec les femmes de la France libre.
Ainsi, en novembre 1941, la capitaine Simone Mathieu est écartée du commandement de son unité. Elle est sans affectation. Que faire ? Elle patiente à Londres. Que faire ? C'est aussi la question que se pose Mila Racine, notre cinquième et dernier personnage. Souvenez-vous, Mila Racine est juive, russe, et après l'arrivée des Allemands à Paris, sa famille a trouvé refuge à Toulouse avant d'être déplacée. C'est Sacha, sa sœur, qui témoigne.
On a tous été envoyés à Luchon en résidence forcée. Et là, ma sœur avait déjà organisé plein de choses. On commençait à avoir les bruits des camps de Gurs et de Rivesaltes. Mais je ne sais pas quel juif était à Gurs et Rivesaltes et pourquoi nous, on était à Luchon dans des hôtels.
Les camps de Gurs et de Rivesaltes appartiennent à la constellation des camps de la zone sud qui ont servi à l'internement administratif des juifs étrangers ordonnés par Vichy au cours de l'année 1941. Mais la famille de Mila a été transférée plus au sud, dans les Pyrénées, à Luchon.
Alors la famille a effectivement quitté Toulouse en novembre 40 pour Luchon, qui accueille à ce moment-là une deuxième vague d'immigrés juifs.
Zoé Grimbert est historienne.
Et à Luchon, elle organise un programme de secours aux internés des camps d'internement du sud-ouest de la France. Ce qu'elle va faire, c'est connaissant la situation... difficile est la vie des internés des camps. Elle souhaite acheminer de la nourriture dans les camps.
Alors ma sœur a commencé, avec ses deux, trois copains et avec moi, on a commencé à aller taper tous les juifs riches.
Sacha Racine, 1997.
Et on a commencé à acheter au marché noir du sucre, du riz, des pâtes. On ne trouvait plus de conserve. Il n'y avait plus une seule boîte de sardines, il n'y avait plus rien. Même pas des haricots blancs ou des machins comme ça. Ce qui tient un peu au corps qu'on voulait envoyer à Gurs et à Rivesaltes. Alors on a commencé à fabriquer nos conserves. Mais ça, en rigolant, c'était très amusant. On achetait des haricots blancs aux paysans. On faisait faire au ferblantier, on faisait faire des boîtes. On remplissait nos haricots. On allait chez le soudeur faire souder. On allait chez quelqu'un qui avait un truc pour bouillir le linge. Il fallait bouillir ça pendant 20 heures. Et on a fait comme ça plein de boîtes de conserve. Et dans notre bureau, on avait déjà, je ne sais pas comment, les gens se passaient l'adresse. Et on avait les adresses des gens de Gurs et de Rivesaltes. Et on envoyait, tous les jours, on était une dizaine pour faire des colis. Et on envoyait, on recevait des lettres. Les gens étaient crevés de faim à Gurs et à Rivesaltes.
Il n'y a rien dans cette soupe. Ils ne vont pas tenir longtemps comme ça.
On voit que chez cette jeune fille, on est dans cette capacité à organiser un programme de secours alors qu'elle a une vingtaine d'années. Elle est au début de sa vingtaine. Et une volonté d'aider des gens qui sont dans une situation qu'elle estime pire que la sienne et qui montre son engagement dès ces années-là pour les autres dans une situation difficile.
Par ailleurs, à l'automne 1941, Mila Racine s'est rapprochée d'une organisation clandestine, l'armée juive.
On sait que Mila aurait prêté serment à cette armée juive. On en sait en fait assez peu. Mais ça témoigne de son engagement dans ce mouvement qui a un caractère militaire. La plupart des organisations juives, craignant en fait des représailles sur la population juive, refusent la lutte armée. Et donc une action qui finalement aurait plus de conséquences négatives que positives. Et donc pour une grande partie des organisations juives clandestines, l'enjeu doit être surtout le sauvetage des juifs. Les faux papiers, le passage en Espagne, en Suisse pour les enfants, mais pas tellement la lutte armée.
C'est vrai qu'on est juif ?
Oui.
Mais si c'est pas bien, on n'a qu'à plus être juif.
C'est une donnée importante. On a trop souvent l'image d'une population juive qui subit son sort sous l'occupation sans résister. Or, c'est faux. Il y a eu aussi parmi les Juifs de France, dès 1941, des mouvements de résistance.
Les Juifs se sont organisés et ont cherché à faire quelque chose. Après, la question est toujours la forme que prend cet engagement. Effectivement, tous les Juifs n'ont pas résisté dans des mouvements armés, mais la résistance est loin de se réduire à la lutte armée. Et ces groupes clandestins de résistance vont être très actifs dans l'aide, une aide sociale aux Juifs, dans le sauvetage, ce qu'on appelle la planque, le fait de cacher notamment des enfants. Et je dirais aussi, ça a une importance morale pour les Juifs de France, de savoir qu'un peuple qui se considère comme tel, particulièrement face aux persécutions, ne se laisse pas faire, entend agir, ça a une importance morale très forte. Une résistance juive dans laquelle les femmes vont jouer un rôle non moins important que celui des hommes, dans ce qu'on peut appeler le travail de care.
Care, c'est en anglais, oui. C-A-R-E, qui veut dire prendre soin en anglais. Voilà.
Et dans le cas de Mila, il y a une spécificité dans son engagement, dans sa trajectoire, c'est son rapport aux enfants. On sait qu'à Toulouse, où la famille a été pendant quelques mois, au cours de l'été, elle s'est beaucoup occupée de ses petites cousines qui vivaient dans la maison à côté, petites cousines qui avaient perdu leur père l'année précédente de tuberculose. Et ces cousines-là, qui ont survécu à la guerre parce qu'elles ont réussi à partir à New York, se souviennent des longues promenades qu'elles faisaient avec leur cousine, qui leur a appris l'anglais. Et Mila leur apportait beaucoup de tendresse. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans son parcours. Très régulièrement, un goût du collectif et du collectif avec des enfants.
En conclusion de ce quatrième épisode, retenez qu'en 1941, face au régime de Vichy et aux nazis, nos cinq femmes sont à l'initiative d'actions dangereuses. Elles agissent avec courage, car elles risquent déjà de lourdes sanctions.
Bon, ben vous allez venir avec nous pour un petit renseignement.
Renseignement ?
Ben oui, un petit renseignement.
Et puis, l'histoire s'accélère.
Les avions japonais bombardent Pearl Harbor.
En décembre 1941, les États-Unis entrent dans le conflit. La guerre devient mondiale. Et en France, au printemps 1942,
le président Pierre Laval vous parle.
La situation empire.
J'ai connu dans ma vie publique des moments difficiles où le sort de la France était en péril. C'est toujours à ces heures que j'arrive au pouvoir.
Comment nos cinq femmes ont-elles défié le cynique Pierre Laval et ses sbires pro-nazis? C'est l'horizon du prochain épisode. Les Résistantes, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Romane Boringer, Laure Calamy, Aurore Clément et Anna Mouglalis. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Léonie Ferret. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Prochain épisode, Obéir, c'est trahir. Les Résistantes est un podcast original de France Inter.